Chères auditrices et chers auditrices et chers auditeurs, excusez-moi, bonjour. Nous continuons notre série qui est intitulée « Crucifié avec Christ ». Être crucifié avec Christ, c'est cette série. Chers amis, aujourd'hui, c'est l'étude numéro 4 et le thème sera l'heure du triomphe. L'heure du triomphe. L'apôtre Paul nous dit en Colossiens chapitre 2 verset 15, ayant dépouillé les dominations et les puissances, il les a livrées en spectacle triomphant d'elles par cette croix. Tel est donc, chers amis, l'historique de la tragédie de la croix décrite au point de vue divin. Tandis qu'aux yeux du monde, le prince de ce monde réussissait à humilier publiquement le Christ de Dieu et triomphant sur son corps par la mort, eh bien au même moment, devant Dieu et devant ses armées célestes, les dominations et les princes des ténèbres recevaient le coup de mort par la mort même du Christ qu'ils ont crucifié. L'apôtre emploie le mot « déployer » comme un vainqueur qui produit ou déploie ses captifs et ses trophées dans une procession triomphale. C'est pour ainsi dire le conquérant les menant à son triomphe devant toute l'armée des cieux. La même métaphore se retrouve dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, où il nous est dit que Christ amène en triomphe tous ceux que son amour a conquis et qui deviennent avec joie les trophées de sa mort. Ô Seigneur, aide-moi par le Saint-Esprit à faire cette étude correctement et 100% biblique. Chers amis, quel tableau nous avons sous les yeux de la victoire du calvaire. Quel contraste avec la scène qui se déroule au même instant sur la terre. La multitude des moqueurs, oui, et aujourd'hui plus que jamais, il y a des moqueurs autour de la croix. Ils se doutaient bien peu de la procession triomphale s'avançant dans le monde invisible, où toutes les armées de l'enfer se trouvaient vaincues et humiliées par leur vainqueur. L'apôtre dans ce tableau place dans une lumière éblouissante le paradoxe du crucifiement. Car la potence du malfaiteur devient le char du triomphateur. La Bible dit « Le Consolateur convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. » Notez Saint Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Ou plutôt 7 et 11. La veille de sa passion, eh bien le Seigneur avait dit à ses disciples, « C'est maintenant que le prince de ce monde est jugé. Mais après sa mort et sa résurrection, le Saint-Esprit rend ce témoignage que le prince de ce monde a été jugé. » Le Fils de Dieu a remporté la victoire sur les puissances de l'enfer par sa croix sur le calvaire, et le Saint-Esprit est donné pour convaincre le monde de sa victoire et lui prouver l'œuvre complète du Fils de Dieu. Et cependant, qu'il est bien petit le nombre des enfants de Dieu qui réalisent la défaite de leur ennemi par la croix du calvaire. combien peu il y en a qui savent résister aux embûches du malin, et encore moins qui aient le courage de l'attaquer en lutte ouverte pour participer au triomphe de la croix. C'est par le sang de l'agneau qu'il y a la victoire. Oui, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, car ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse, donc le dernier livre de la Bible, Révélation, chapitre 12, verset 11. Dans ce chapitre de l'Apocalypse, le voile s'écarte un instant pour nous laisser entrevoir la lutte qui se livre dans le monde invisible. Peu importe qu'il soit question là de ce que dit qui doit arriver plus tard, ce qu'il importe de comprendre, c'est que de même qu'il y a eu une lutte finale sur la croix entre le prince de la vie et celui des ténèbres, lutte qui renversa ce dernier de son trône, de même aussi, il y aura un combat final dans le ciel lorsque l'armée du Seigneur précipitera sur la terre le dragon et ses anges avant de les précipiter finalement dans l'abîme de et le lac de feu. Mais me direz-vous, le dragon est encore en liberté, bien que les dominations et les puissances aient été vaincues à la croix, il y a un intervalle entre ce glorieux triomphe et le moment de leur chute finale, intervalle pendant lequel toutes les âmes rachetées doivent se hâter de s'approprier individuellement la victoire du calvaire et de vaincre l'ennemi personnellement pour être du nombre des vainqueurs qui s'assieront avec Christ sur le trône. C'est maintenant que nous vivons cet intervalle. Pour ceux qui possèdent Internet, moi je ne le possède pas, mais je travaille pour Internet depuis 5 ans et j'ai déjà fait plus de 4000 CD bibliques sur Internet, bien que je ne le possède pas. Eh bien, c'est un miracle de quelqu'un qui était le directeur de Hans Wilsdorf, la fondation Hans Wilsdorf à Carouge, qui m'a aidé. Et vous pouvez donc trouver toute la série sur les prophéties, puisque ça correspond à ce que je fais maintenant, toute la série sur les prophéties, 3xwww.bibleexplique.ch, et vous trouverez tout ce qu'il y a de fantastique, de miraculeux voire même, puisque j'ai fait que 4 ans d'école primaire et que c'est le Saint-Esprit qui m'a instruit. Mais c'est une très longue histoire puisque, vous le savez maintenant, j'ai 92 ans. Chers amis, par cette échappée qui nous est donnée sur le combat final dans le ciel, le triple secret de la victoire nous est dévoilé, ainsi que la manière dont chaque vainqueur doit combattre. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Cette déclaration nous ramène de nouveau au calvaire et aux souffrances de Jésus-Christ. Ces vainqueurs-là ont évidemment compris la victoire de la croix par l'action du Saint-Esprit en eux. Le sang ou la mort de l'agneau était donc leur seule arme contre l'ennemi. De plus, ils rendaient leur témoignage confessant Christ avec courage et ils n'aimaient point leur vie, mais ayant accepté la mort. Non seulement ils avaient manié l'arme de la croix pour vaincre le malin, vous savez qui c'est, mais ils avaient bu à la source de l'esprit de celui qui était mort, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et par conséquent, ils avaient accepté de vivre un crucifié, triomphant du prince des ténèbres par l'Esprit Saint de leur Seigneur lui-même. La croix est encore et toujours le secret de la victoire pour tous les rachetés. Unis au Seigneur en sa mort, ils participent à sa vie de résurrection et sont maintenant assis avec lui dans les lieux célestes, bien au-dessus de toutes les dominations et de toutes les puissances de l'enfer. La Bible nous dit, puisque Christ a souffert dans la chair, armez-vous de cette même pensée. Premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 1. Donc, l'adversaire a beau être un ennemi vaincu, le sang de l'agneau a beau être à notre disposition à l'heure de la tentation. Or, si nous ne cherchons pas à pénétrer plus avant dans cet esprit du Sauveur crucifié, eh bien nous resterons impuissants à combattre les attaques de l'ennemi. Christ a souffert dans sa chair, nous dit l'apôtre Pierre. Armez-vous donc de cette pensée. Christ a choisi le sentier de la souffrance dans ce présent monde mauvais. Il a pris la forme d'un serviteur, lui qui était le Seigneur de tous. Eh bien, il a voulu descendre et prendre la forme humaine, lui, le Tout-Puissant. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort la plus ignominieuse, oui, lui, Jésus-Christ, qui dans le ciel était absolument légal à Dieu le Père. Chers amis, la Bible dit « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister à toutes les ruses du diable. » Éphésiens, chapitre 6, versets 11 et 13. Ici, l'apôtre Paul décrit l'ennemi d'une manière frappante, ainsi que la lutte qui nous attend dès que nous voulons vivre de la vie de résurrection par la croix. Fortifiez-vous donc dans le Seigneur, écrit-il, et par sa force toute puissante. Éphésiens 6, verset 10. Je répète, fortifiez-vous dans le Seigneur, écrit-il, et par sa force toute puissante. Éphésiens 6, verset 10. Ces paroles indiquent très clairement que le racheté en a fini avec ses propres forces, car l'apôtre s'intéresse à ceux qui ont été vivifiés avec Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter. Lutter, oui, certes, car l'ennemi spirituel, il attaque l'homme spirituel d'une manière spirituelle. Et le croyant a conscience de cette lutte qui le met aux prises avec l'ennemi invisible qui, pour ainsi dire, s'entortille autour de son homme intérieur et lutte avec rage et avec ruse. Donc, vouloir lutter serait une pure perte. Lutter par ses propres forces, je répète, c'est une lutte qui est de pure perte. Et le racheté, il n'a qu'à se tenir debout, refusant à tout prix de rendre ses positions, c'est-à-dire sa position qui se trouve en Jésus-Christ. La chair et le sang, ces mots donnent à penser que les artifices du diable, les esprits malins, se trouve souvent déguisé sous une forme humaine. Un ami qui, par exemple, vous veut du bien, entre guillemets. Mais l'âme fermement ancrée dans le Seigneur, elle est capable de distinguer clairement cet esprit qui agit non seulement dans les enfants de rébellion, mais souvent même dans les enfants de Dieu, ainsi que nous le voyons dans l'apôtre Pierre. Rappelez-vous l'apôtre Pierre, alors qu'il a tenté le Seigneur, de même que lorsque Satan a poussé David à agir sans l'ordre de Dieu. Or, le racheté qui est rempli du Saint-Esprit, elle devient un vrai soldat de la croix, de mieux en mieux capable de distinguer et de reconnaître les diverses dominations et puissances de ténèbres par lesquelles l'ennemi a le pouvoir d'attaquer le racheté comme il avait attaqué Job, ce saint homme dans l'Ancien Testament, sans que celui-ci même s'est douté de ses attaques. Et c'est pourquoi, prenez avec vous toute l'armure de Dieu, s'écrit le grand guerrier qui a été l'apôtre Paul. Christ a triomphé de ses puissances occultes sur sa croix. Mais il s'agit que vous qui écoutez maintenant, vous qui êtes unis à lui, vous preniez cette armure qu'il vous a préparée. Ce n'est pas pour qu'il ne te reste rien à faire. Ô pécheur qui a été racheté, qui a été sauvé, que Jésus a donné sa vie pour toi, tu dois prendre la part du conflit. Et tu dois triompher comme il a triomphé si tu veux un jour partager son trône. Chers amis, pour habiter en Jésus-Christ, il faut tout d'abord revêtir la ceinture de la vérité, car la moindre chose contraire à la vérité, et je me pince le nez personnellement, dans la vie intime ou publique aux yeux de celui qui est, lui, la vérité, tout cela amènera immanquablement la défaite par l'ennemi. Je répète, parce que c'est important. Pour habiter en Jésus-Christ, il faut tout d'abord revêtir la ceinture de la vérité. Car la moindre chose contraire à la vérité, dans la vie intime ou publique, aux yeux de celui qui est la vérité, amènera immanquablement ta défaite par l'ennemi. Cher ami, il faut aussi que caché en Jésus-Christ, tu deviennes un messager de bonnes nouvelles, car tu as été sauvé pour servir. Je répète, il faut que caché en Jésus-Christ, tu deviennes, toi qui écoutes maintenant, que tu sois femme ou homme, tu deviennes un messager, une messagère de bonnes nouvelles, car tu as été sauvé pour servir. Et il faut que tu sois prêt à obéir au Maître en tout et partout, sous peine de contrister l'esprit et de donner prise à l'ennemi sur toi. Ensuite, eh bien, souviens-toi que lorsque un des membres du corps de Christ souffre, eh bien, tous souffrent avec lui. Et prie avec persévérance pour tous les saints, surtout pour ceux qui sont au fort de la mêlée, tels que les missionnaires dans les pays hostiles. N'oubliez jamais cela. C'est important de prier pour eux. Encourageons-nous donc, chers amis, avec 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 et 12. Si nous mourons avec lui, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, eh bien nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 et 12. Et l'apôtre Paul dit encore, « Afin de le connaître, lui, Jésus-Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, me rendant conforme à lui dans sa mort. » Philippiens chapitre 3, verset 10. Chers amis, nous rencontrons de nouveau ici les mots « sa mort ». Et cette fois, c'est dans la lettre de l'apôtre à ses bien-aimés Philippiens. C'est environ 6 années après son épître aux Galates, alors qu'il leur écrivait avec joie, « J'ai été crucifié avec Christ ». Cependant, nous le voyons parler ici d'une assimilation ou d'une conformité à la mort de Christ comme étant la condition nécessaire pour arriver à posséder la puissance découlant de sa résurrection. Je répète, la mort de Christ comme étant la condition nécessaire pour arriver à posséder la puissance découlant de sa résurrection. Il n'y a pas dans toute l'Écriture une preuve plus concluante que l'œuvre de la croix dans la vie du chrétien. C'est une œuvre continue, c'est une œuvre progressive. Plus l'âme avance et qu'elle mûrit, plus elle réalise la communion aux souffrances de Jésus-Christ. Le point culminant de la vie de résurrection, c'est le retour à la croix. Et voilà pourquoi l'apôtre s'avance vers le prix de la vocation céleste en Christ Jésus et qu'il désire être rendu conforme avec lui en sa mort, sachant que souffrir avec lui et pour lui, pour Jésus-Christ, c'est aussi être purifié avec lui. Examinons maintenant les lettres de l'apôtre pour y découvrir que signifie dans la vie pratique de cette conformité à la croix. L'apôtre Paul dit « Accablé excessivement au-dessus de nos forces, désespérant même de vivre, condamné à mort, afin que nous n'eussions point de confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 8 et 9. Ce passage, il nous montre très clairement que malgré notre acceptation de la mort avec Christ et de la puissance de sa vie de résurrection en nous, nous sommes constamment ramenés à réaliser non pas seulement en principe, mais dans la pratique, que nous n'avons aucune force par nous-mêmes. L'apôtre déclare qu'il désespérait même de vivre, mais que Dieu leur avait répondu que c'était la mort au-dedans qui devait les amener à désespérer d'eux-mêmes et de tout, et les forcer de n'avoir d'autre espoir que en Dieu qui seul ressuscite les morts. Et il les délivra, et il nous délivrait, et nous a délivrés à l'heure de la détresse, est-il dit, de sorte que fondé sur sa fidélité, nous savons bien qu'il nous délivrera encore et encore. Ceci nous explique le pourquoi des nombreuses afflictions qui assaillent l'âme après qu'elle s'est écriée avec joie « Oui, oui, j'ai été crucifié avec Christ ». Il faut que nous apprenions à mettre la puissance de Dieu à l'épreuve alors que notre propre puissance est à bout et que Dieu nous place au milieu des circonstances qui dépassent nos forces, de telle sorte que nous désespérions de nous-mêmes pour mettre en lui seul, c'est-à-dire en Jésus, notre confiance. Et c'est là qu'est le danger durant la vie entière de chaque racheté, de se confier en soi-même, en moi-même. Et puisque l'apôtre lui-même l'a éprouvé, demandons au Seigneur de nous tenir dans une constante dépendance de lui et une constante défiance de nous-mêmes. Je suis faible, il est vrai, mais lui, Jésus-Christ, ne l'est pas. Bien au contraire, il est puissant en vous. Il est puissant en nous. Une des faces de cette conformité avec Christ est donc la faiblesse, tandis que beaucoup s'imaginent devoir se sentir fort ou devenir des réservoirs de puissance, des batteries surchargées de dynamite céleste. Voyez-vous, nos conceptions humaines de ces mystères terres célestes sont une grande entrave à notre progrès. Mais l'idéal divin, l'idéal de la puissance nous est révélé par l'homme de douleur, souffrant en silence sur le chemin du calvaire. La faiblesse de Dieu est donc plus forte que les hommes. Et combien ? Mais elle est si contraire à toutes nos conceptions humaines qu'il faut que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour que nous comprenions son œuvre et recevions sa puissance qui nous fera désirer cette conformité avec Christ dans sa faiblesse. La conformité à sa mort, cela signifie pour le racheté être ressuscité avec Christ, donc un état de faiblesse toujours plus profonde et non pas un sentiment de force croissante. Il faut bien comprendre cela parce que souvent c'est mal compris. La véritable vie par la foi, c'est d'être conscient de notre faiblesse, de ma faiblesse. Et cependant, de marcher par la foi en la puissance divine et d'agir par la foi en cette puissance, de compter par la foi que c'est Christ qui parlera en nous et de vivre par la foi non plus pour nous-mêmes, mais pour les autres. Beaucoup de rachetés ont compris, ils ont compris cette union avec Christ en sa mort et ils ont accepté d'être eux aussi crucifiés avec lui. Dans la joie de cette nouvelle vie par la foi, ils sont entrés vaillamment au service du Maître, s'appuyant sur lui et recevant le sceau de Dieu sur leurs efforts pendant un certain temps. Puis, il arriva que petit à petit, leur vie diminue et leur témoignage devient vide et creux, comme une cymbale qui résonne. Hélas, souvent, sans s'en apercevoir. Eh bien, croyez-moi, je ne suis pas fier de vous dire que cela a été parfois mon cas. Que s'est-il passé? C'est que nous avons voulu vivre notre vie expérience, notre expérience passée de la délivrance que nous avons eue par la croix, et que nous avons compris qu'après avoir saisi à un moment donné la mort avec Christ, cette mort avec Jésus-Christ doit continuer, elle doit continuer à rester le fondement et la source de la continuation de cette vie. Car pour que sa vie continue à se manifester en nous, eh bien il faut que nous puissions porter toujours la mort du Seigneur Jésus en notre corps. Je répète parce que c'est important. Cette mort avec Jésus-Christ doit continuer à rester le fondement et la source de la continuation de cette vie. Car pour que sa vie continue à se manifester en nous, il faut que nous portions toujours la mort du Seigneur Jésus, en notre corps. Le contraste de ce passage nous explique ce que signifie dans la pratique cette mise à mort de Jésus en nous. Le Christ sur la croix, quoique pressé de tous les côtés et angoissé de ne plus voir la face de son Père, il n'était cependant pas en proie au désespoir, pas du tout. Il était harcelé par les puissances des ténèbres, mais sans être abandonné de Dieu le Père, qui l'a soutenu jusqu'à la fin, il fut accablé par la mort, mais il n'a pas été vaincu par elle, car sa vie était en Dieu le Père. Son apôtre, lui aussi, pressé, angoissé et accablé, reste fidèle au principe que la croix lui a révélé par Christ, à savoir que dans toutes ses souffrances, il portait les marques de la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus fût manifestée en lui avec puissance. Il en avait complètement fini avec toute sa confiance qui était du passé, en ses propres forces du passé, de sorte que la gloire, elle revenait à Dieu seul, non pas à nous. Oui, mes chers amis, le Tout-Puissant, le Tout-Sage, agit encore de même avec ses enfants, afin de les maintenir dans une véritable dépendance de sa volonté, et afin d'en faire des vases prêts à se laisser remplir de lui seul. Le Seigneur les place souvent dans des positions où rien ne pourra les sauver que sa vie à lui, et cela dans des circonstances où ses ressources divines seront seules capables de les délivrer, et où ils sont comme dans un labyrinthe de difficultés pour admirer ensuite la manière merveilleuse dont sa main les a guidés, souvent ballottés sur la mer orageuse, mais jamais abandonnés. L'apôtre dit en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. 2 Corinthiens 4, verset 2. À cause de Jésus. Ce passage semble à première vue n'être qu'une répétition du précédent, mais quand il s'agit de paroles inspirées par l'Esprit Saint, eh bien chaque variation d'expression a sa raison d'être, et nous rencontrons ici une différence de langage qui nous enseigne une conformité plus profonde avec sa mort, c'est-à-dire ses mots extraordinaires à cause de Jésus. Chers amis, sommes-nous tous, nous enfants de Dieu, prêts à aller jusque-là, dans la communion avec le Sauveur? Ne nous est-il pas arrivé de supporter de nombreuses épreuves dans l'espoir qu'un moment viendrait où nous moissonnerions enfin gloire sur gloire dans notre vie spirituelle? Ah oui, combien peu nous avons encore compris la loi du sacrifice, en vue des fruits. Unis au vivant, à Jésus-Christ, il nous conduit jusqu'à la pleine lumière où disparaissent enfin nos idées nuageuses sur les choses divines. En réalité, alors, il nous conduit de gloire en gloire, à la lumière de sa face, afin que nous devenions capables de supporter une communion toujours plus profonde et étroite avec celui qui est mort, et que ainsi nous complétions ce qui manque aux souffrances de Jésus-Christ. Chers amis, la mort en nous, elle produit la vie dans les autres. Il est dit en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 12, « Ainsi la mort agit en nous et la vie en vous. » 2 Corinthiens 4, verset 12. Tel est donc le résultat de cette mise à mort avec Christ. La mort, elle agit en nous pour produire la vie dans d'autres âmes. Il se peut que nous désirions être employés par Dieu pour gagner des âmes, mais notre désir est-il assez intense pour aller jusque-là? Est-il assez fort pour nous faire donner notre propre vie pour en sauver d'autres? Nous contentons souvent de ne garder pour nous-mêmes que faiblesse et impuissance. Voilà donc le vrai sacrifice. C'est la mort du moi. Oui, je répète, le vrai sacrifice, c'est la mort du moi. C'est l'efficace complet. C'est le véritable esprit de la croix manifestant la vie de Jésus dans notre chair mortelle. C'est aussi l'amour même du Christ qui l'a poussé à donner sa vie sur la croix maudite, pour nous donner sa vie. Le seul moyen de gagner des âmes, c'est d'être prêt au sacrifice, de manière à ce que nous ne soyons plus que des canaux vides, faisant passer sa vie à d'autres, la vie de Jésus pour le monde perdu. C'est en proportion de la réalité et de la profondeur de cette mort en nous-mêmes, par la croix, que nous atteindrons jusqu'au cœur même de la vie des autres. C'est ainsi que, à mesure que la mort agit en nous, la vie se propagera autour de nous. Voilà donc la véritable vie apostolique que chacun des rachetés doit connaître et posséder. C'est la vie de la fertilité en Jésus-Christ. Voilà donc la paternité dont l'apôtre Paul parlait lorsqu'il disait « Je vous ai engendré à Christ par l'Évangile ». La mort de Jésus-Christ agit en nous, déclare l'apôtre. Il est donc digne de remarque que le premier chapitre des Romains, avec sa glorieuse proclamation de la liberté par l'Esprit, avec sa révélation de l'accès jusqu'au Père, son affirmation de la demeure de l'Esprit dans l'âme et de l'héritage avec Christ par l'union avec lui, il est, dis-je, remarquable que ce chapitre se termine par quoi ? Par une description frappante de la conformité avec la mort qui en est comme le couronnement. Oui, à cause de toi, à cause de Jésus, nous sommes livrés tous les jours à la mort. On nous regarde souvent comme des brebis destinées à la boucherie, s'est écrié l'apôtre dans Romains chapitre 8, verset 36. Mais il continue par ce cri de victoire. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mes chers amis, si vraiment nous sommes résolus à suivre l'exemple de l'agneau crucifié, est-il si étonnant que d'autres nous considèrent comme tels et nous traitent en conséquence? Oh, mes chers enfants de Dieu, nous avons beau prêcher la croix et même combattre pour la défendre, notre message sera absolument vain si nous ne sommes pas prêts à vivre la croix et à être livrés à la mort tout le jour, comme le dit l'apôtre Paul. Il faut que par notre mort, sa vie, la vie de Jésus, se communique aux autres. Pour nous, le vide, pour nous, la faiblesse, pour nous, la souffrance, les perplexités, les angoisses. Mais pour vous, oui, pour vous, et en vous, il y a la vie. Il en est ainsi, ô Père, parce que tel est ton bon plaisir. Amen. Chers amis, chacun de vous peut maintenant faire une petite prière. Il n'y a pas besoin de mots compliqués. Faites simplement une prière. Parlez à votre Papa Céleste comme si vous étiez et comme si vous êtes en réalité son enfant. Comme l'enfant parle à son papa, à sa maman, parlez-lui maintenant. Et rappelez-vous que Jésus-Christ et Dieu le Père vous aiment. Et il est mon devoir de vous aimer intensément, de tout mon cœur. Et là où vous vous trouvez maintenant, oui, je vous enlace et je vous embrasse tous. Que vous soyez tout près ou que vous soyez très loin, éloigné de moi, je vous embrasse en vous enlaçant maintenant et je vous dis oui, soyez bénis par et en Jésus-Christ. Alléluia. Et je voudrais maintenant vous mettre un ou deux chants d'un très lointain passé. Oh là là, 1952. Il n'y avait pas de CD en ce temps-là. Et c'est pour ça que souvent ça rate et que c'est pas toujours très audible. Essayons quand même. Prenons-le par la foi.
The earth. You should judge the world.